RFI. Grand reportage.
Le magazine de la rédaction vous emmène en Italie. Venise, la ville mythique, suffoque sous le poids du tourisme et la colère gronde. Récemment, un nouveau problème est apparu, un nouveau fléau, disent les plus mécontents. Ce sont ces immenses bateaux de croisière, parfois hauts comme des immeubles, qui défilent devant la place Saint-Marc. En juin, l'un de ces paquebots a d'ailleurs heurté un quai. Tourisme, Venise sous perfusion toxique, un grand reportage de Paul Inglese.
Parfois je joue à ça. Si j'avais une baguette magique et que je faisais disparaître les touristes, combien de personnes resteraient-ils sur cette place? 3 peut-être. Donc Venise, c'est une ville fantôme.
Lydia Fersuac est présidente de l'antenne vénitienne d'Italia Nostra, une association de défense de l'environnement et du patrimoine. Cette vénitienne de toujours a vu sa ville changer, et pas qu'à proximité du pont de l'Académie où nous nous trouvons au bord du Grand Canal.
Il y a 25 ans, j'ai dû aller habiter au Lido. Je n'étais pas contente à l'époque, mais maintenant je le suis, parce que c'est un endroit vivable. Maintenant, chaque jour, quand je viens à Venise, c'est une souffrance. Je ne la reconnais plus, cette ville. Il n'y a plus rien, plus de magasins. Que des touristes.
Parmi les griefs contre les touristes, le comportement de certains d'entre eux jugé peu adapté, les embouteillages piétons, avec une moyenne d'environ 70 000 touristes par jour, selon une estimation publiée dans une étude universitaire pour quelque 50 000 habitants dans la Venise insulaire. Leur empreinte sur la ville est inévitable, en termes de déchets à gérer par exemple. Italia Nostra en appelle à l'UNESCO, Venise et sa lagune étant classées sur la liste du patrimoine mondial.
En 2011, on a pris l'initiative d'écrire 3 lettres pour demander que Venise soit inscrite sur la liste des sites en péril pour obtenir une protection plus étroite et pas pour nuire à qui que ce soit. En 2015, l'UNESCO a envoyé 3 inspecteurs. Ils ont demandé l'exclusion des grands bateaux de la lagune. Ils demandaient aussi des incitations pour les transformations de locations touristiques en appartements pour les résidents. Et cette année, à Bakou, l'UNESCO est revenue sur cette décision. Elle a accepté que les bateaux continuent à entrer dans la lagune. En fait, ils ont accepté le rapport du maire qui était très édulcoré.
Parmi les mesures envisagées par la municipalité, la création d'une taxe d'accès, cet impôt qui devrait fluctuer entre 3 et 10 euros, est communément appelée taxe de débarquement, expression qui déplaît à Paola Mar, la conseillère municipale de Venise en charge du tourisme.
La redevance d'accès sera payée par les personnes qui viennent pour la journée. Cela servira à l'entretien de la ville, à la restauration des monuments. Rendez-vous compte, pour entretenir une ville comme ça, il faut 40 millions d'euros par an. Pourquoi la taxe ne devrait être payée que par ceux qui dorment en ville et pas par ceux qui viennent pour la journée et qui salissent peut-être tout autant que les autres.
Mais la collecte de cette taxe prévue pour le courant de l'année ne sera finalement pas effective avant 2020. En tout cas, cette initiative est diversement appréciée en ville. Lydia Fersuac ne mâche pas ses mots.
C'est une idée comme ça qu'ils ont trouvée pour l'UNESCO, pour montrer qu'ils font quelque chose. Cette taxe de débarquement, c'est du folklore. Et c'est très difficile à mettre en place. Cela dit, on y est opposé. Il ne faut pas payer pour venir à Venise. Il faut éviter de venir si on n'y dort pas.
Dans son magasin de souvenirs en verre typique de Venise, Alessandra Vianello n'a pas peur que cela ait un impact négatif sur son activité. Bien au contraire.
Ils ont raison de mettre cette taxe parce qu'il arrive un tourisme de masse qui n'est pas très bon. Des gens qui salissent, c'est tout. Il y a trop de gens. Bon, Venise a toujours été comme ça, très touristique. Mais c'est dommage qu'ils soient toujours plus nombreux et que les personnes qui arrivent soient de pire en pire. Ils ont tous peur de dépenser leur argent.
Il est pas loin de midi et toujours sur ce grand axe piéton, Roberto attend le client devant une terrasse encore vide.
Cela nous apporterait plus de travail et avec des personnes plus intéressantes. Il y a beaucoup de gens qui mangent dans la rue et ils laissent traîner leurs poubelles ici. C'est normal qu'ils payent une taxe d'entrée.
Un couple d'Allemands a d'ailleurs récemment écopé d'une amende de 950 euros et a été invité à quitter la ville pour avoir préparé du café sur un réchaud au pied du Rialto. À l'écart des parcours les plus empruntés, perdus dans le dédale de ruelles et de canaux, le contraste est saisissant. Le calme, le silence, seulement perturbé par Maria, une vénitienne d'adoption qui défend la cause des touristes auprès d'une passante.
Moi, quand je vais en Autriche, à New York, qu'est-ce que je suis ? Une touriste ? C'est une erreur de dire du mal des touristes. Est-ce qu'ils la feront, cette taxe de débarquement ? Je crois pas. Comment la gère-t-il ? Vous pouvez me le dire ? Quelqu'un qui a un peu de cervelle n'imagine même pas une bêtise pareille. Qu'est-ce qu'ils font ? Les tatouent, les touristes ? Et puis si les touristes ne viennent plus, ils pleureront les Vénitiens. Parce que de quoi vivent-ils ? Qu'est-ce qu'ils produisent ? Partout. Madame, ici c'est plein de chambres à louer.
Nous voici sur la place la plus prisée de Venise. Les arcades du Palais des Doges à notre gauche, l'église Saint-Georges en face. Claudio Vernière, directeur d'Alto Daro, glacier historique et président de l'association de la place Saint-Marc, est mitigé sur la taxe.
Si la taxe permet de limiter le nombre de touristes, d'accord. Si c'est juste pour trouver de l'argent, c'est non. Ce qui me fait peur, c'est que les gens, s'ils paient, ils veulent quelque chose en retour. Donc il faudrait subventionner des services pour les touristes, des toilettes, des vaporetto, des bancs. Si la taxe était de 50, 100 euros, cela pourrait être dissuasif. Mais si ce n'est que de 3 ou 5 euros par jour, je ne crois pas que ce soit un frein.
Secondo me non è un limite.
Réponse dans un autre lieu mythique de la Sérénissime, au pied du pont du Rialto. Pour le traverser, il faut parfois faire la queue. Ces touristes ne s'insurgent pas de la taxe.
On est habitué à voyager dans le monde et c'est normal pour nous de payer un impôt local. Et puis, on doit avoir confiance pour que le pouvoir du moment le gère au mieux.
Ça va, c'est un bon prix.
Claudio Vernière semble donc avoir vu juste. En tout cas, il a beau être commerçant, limiter l'afflux touristique est pour lui un impératif.
C'est un problème de physique. Venise est une île, elle est petite, les rues sont étroites, donc le nombre de ceux qui peuvent en profiter doit forcément être limité. On dit qu'un nombre acceptable, en dehors des hôtels, des travailleurs, des universitaires, serait 60 000 personnes par jour, alors qu'on arrive parfois à 120, 150 000.
Mais instituer un numerus clausus, comme le préconise Italia Nostra, est impossible à mettre en place, explique la conseillère municipale.
Il y a le traité Schengen qui permet la libre circulation des personnes et des biens, donc on ne fera pas de numerus clausus. Mais d'ici à 2021, on veut arriver à un système de réservation. Et on est clair, l'accès à la ville pourra être limité s'il y a des problèmes de sécurité. L'année prochaine, on mettra en place un système pour compter les gens. Si l'on voit qu'il y a un afflux excessif, on pourra agir en conséquence.
Bonjour.
Cristina Giussani tient la librairie Mari di Carta, spécialisée dans la littérature maritime. Présidente de la section régionale de la Confesercenti, une organisation patronale, elle mise plutôt sur l'information et l'incitation.
Il faut que tout le monde puisse venir visiter Venise, peut-être pas tous ensemble. Par exemple, la période estivale, tous ceux qui sont, les touristes qui sont sur les plages à côté, dès qu'il y a une journée de mauvais temps, mais il suffit quelques nuages dans le ciel, il y en a 100 000 qui arrivent tous ensemble à Venise. C'est un tourisme qui ne donne pas beaucoup à la ville du point de vue économique. Pour le carnaval, pendant 3 semaines, on ne vit pas. Je crois qu'il faudrait vraiment trouver un système pour informer qu'ils sont en train de venir dans un moment très difficile. L'année passée, pour le carnaval, le jour principal, il y avait le volo de la Colombine. Ils ont fermé la place Saint-Marc à 20-25 000, il me semble, accès. Mais personne ne le savait, sauf les Vénitiens. On avait proposé à la mairie une application gratuite dans laquelle on aurait pu se présenter et dire « voilà, j'arrive ». Et à ce moment-là, on aurait pu leur dire « voilà, ben, il y a 30 000 qui sont déjà arrivés ce matin, est-ce que vraiment tu veux venir ?» Et éventuellement proposer des solutions moins chères dans d'autres périodes. Les vaporetti en hiver pourraient être moins chers, etc.
Dis-moi Marco, voulez-vous porter vite, tes libri ?
Mais la municipalité exclut pour le moment de favoriser les périodes les plus creuses. Cristina Giussani plaide aussi pour que des informations sur la ville et son histoire soient fournies aux futurs visiteurs.
Les étrangers qui regardent les enfants qui jouent dans les campos et demandent « mais vous avez des écoles ici ?» Ça te dit que vraiment, il y a trop de gens qui ne savent pas que c'est une vraie ville, en fait, où les gens habitent encore. Essaye, résiste. Et tout ça, il faudrait l'expliquer. Comme ça, déjà, quand on arrive, on est un peu plus préparé, on respecte plus. Et en même temps, si tu es préparé, tu es conscient que si tu arrives quand il y a déjà 50 000 personnes, ça sera beaucoup plus difficile pour toi que si tu viens un jour où il y a beaucoup moins de monde. D'autre part, quand ils sont là, essayer d'éparpiller les visiteurs dans la ville d'une façon meilleure.
Il y a des commerçants qui profitent beaucoup du tourisme et d'autres assez peu.
Mais quand ils ont placé le pont de Calatrava, tout ce côté-là de la ville a une chute d'économie incroyable. Il y en a maintenant qui commencent à passer parce qu'il y a quand même des visiteurs intéressés.
La libraire souhaiterait dans l'idéal un tourisme plus riche et qui reste à Venise plus longtemps, mais les nuitées passées en ville ne sont pas sans problème. Beaucoup d'appartements sont loués aux touristes avec des répercussions pour les résidents. Le constat de Bernardo Guedin, un agent immobilier, est sans appel.
Il y a beaucoup de Vénitiens qui cherchent une location, mais les loyers sont très chers et tout le monde ne peut pas se le permettre, alors ils préfèrent louer à Mestre sur la terre ferme. C'est moins cher, plus neuf. Mais la conséquence, c'est que Venise, la nuit, est vide.
De la demande, il y en a aussi pour les achats.
Il y en a beaucoup qui veulent acheter pour faire des affaires.
L'été est bien installé, mais Benedetta Brossa arpente toujours la cour de son université. Pour étudier à Venise, elle a dû passer par la case recherche d'appartements.
En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Personnellement, je n'ai pas eu de difficultés. Mais je connais beaucoup de gens pour qui cela a été compliqué et ils ont dû aller habiter à Mestre, sur la terre ferme ou à Favaro, encore plus loin. Et puis, à Venise, on peut éventuellement trouver un logement, mais parfois, une chambre simple est louée comme une double parce que le propriétaire veut faire davantage de profit. Sinon, en tant que résident, on sait où aller. Plutôt qu'un dîner au resto, on va peut-être aller prendre un spritz dans un bar qu'on connaît. Et les zones les plus touristiques, on apprend à les éviter. Et on arrive à marcher plus facilement en prenant un autre parcours.
Nous voici sous le portique du théâtre de la Fenice. Il y a quelques années, l'association 25 avril y a fait voler des tracts avant la représentation pour réclamer entre autres davantage de logements résidentiels. Aujourd'hui, son président, Dario Vianello, n'est pas plus serein. Le groupe 25 avril a appelé avec succès la mairie à se joindre à une requête d'autres villes européennes contre Airbnb.
Non, siamo contrari Airbnb. Ci vuole un equilibrio.
On n'est pas opposé aux chambres d'hôtes, mais il faut un équilibre. Parce qu'il y a une diminution du nombre d'habitants chaque année. Désormais, il y a moins de 53 3000 résidents à Venise, il y a quelques dizaines d'années, 120 000 personnes habitaient dans la ville. Cette situation est devenue tellement exacerbée que des personnes qui ont la maison à Venise pour venir une partie de l'année, mon ami par exemple, il m'a dit qu'il pensait partir parce que Venise n'est plus comme avant. Avec tout ça, les habitants sont plus irritables. Des gens qui avant faisaient de l'hospitalité un mode de vie, maintenant ils sont tendus. Il y a des disputes en permanence dans les vaporetti, dans la rue, des bousculades.
Vous vivez toujours à Venise ?
Non, cela fait 20-30 ans que je vis sur la terre ferme. J'aimerais revenir à Venise. La différence avec les autres villes, c'est qu'en général, quand les habitants vont vers la périphérie, ils s'éloignent. Mais le mode de vie, c'est le même. Ici, quand un Vénitien part à Mestre, son mode de vie change complètement. Et donc, il existe le risque que cette civilisation vénitienne, vieille d'un millénaire, soit en train de disparaître. La municipalité, pour l'instant, n'est pas très sensible à ça. D'ailleurs, tous les derniers hôtels qui ont été faits, ils tendent à augmenter le tourisme, pas à le réduire.
Tende ad aumentare il turismo, non a diminuirlo.
La municipalité assume l'installation de nouveaux hôtels hors du centre-ville. Le problème pour elle, ce ne sont pas tant les touristes qui dorment sur place et pas tant les hôtels que les locations illégales d'appartements. Pour cela, Paola Mar met en place un nouveau dispositif.
Pour combattre les fraudes, on a fait un système avec une géolocalisation de toutes les structures autorisées à recevoir des touristes. Donc un citoyen, s'il voit des gens dans son escalier, peut vérifier et éventuellement dénoncer ce qu'il a vu de manière anonyme ou non. La municipalité a fait en sorte que dans le centre de Venise, on ne puisse plus ouvrir de magasins de nourriture à emporter, d'hôtels, de bars et de restaurants, précisément pour limiter la monoculture touristique. Et puis pour les magasins de proximité, on a réduit la taxe sur les poubelles de 30%.
L'autre grande problématique liée au tourisme à Venise, c'est le passage des bateaux de croisière. Dario Vianello, journal dans les mains, s'exaspère de l'affluence des paquebots.
Il me semblait l'avoir vu. Ah, voilà. 8 grands navires attendus samedi. 8, c'est pas rien en un seul jour. Le problème, c'est que ces touristes consomment peu dans la ville parce qu'ils dorment et mangent sur le bateau. Ils font tout sur les bateaux, à part quelques tours en gondole ou quelques visites guidées. Ils ne font rien de plus.
Gondola.
Cristiano Boscolo, t-shirt rayé rouge de gondolier et canotier sur la tête, attire le chaland. La limitation du tourisme et des croisières, très peu pour lui.
Venise, c'est un port et si tout est fait dans les règles, tout se passe bien. Je suis dans le tourisme, comme une grande partie des gens ici. Et directement ou indirectement, je fais travailler mon boulanger en étant dans le tourisme.
Perché anche il mio panettiere lavora con me.
Les croisières ne représenteraient que 5% de la fréquentation de la ville. Mais l'affluence n'est pas le seul enjeu. Le passage de ces bateaux pose des questions de sécurité. Des craintes qui ont pris corps ces derniers mois lorsque le MSC Opéra a heurté un bateau et un quai. Une vidéo tournée à ce moment-là a fait la une des journaux. Un mois plus tard, un nouvel incident a été évité de justesse. La terrasse de la Gelateria de Claudio Vernière plonge dans le bassin Saint-Marc. Ce jour-là, pas de paquebot à l'horizon, mais il a l'habitude de les voir passer.
Oui, juste là devant. C'est inquiétant, surtout après ce qu'il s'est passé. Ce qui fait peur, c'est que pendant des années, ils nous ont raconté qu'il n'y avait pas de danger. La réalité, c'est qu'ils nous ont menti. C'est aux politiques de dire « là, vous n'y allez plus parce que c'est dangereux ». Moi, je ne me sens pas protégé par mon État car il me met en danger chaque jour.
En 2012, un décret interdisait aux navires de plus de 40 000 tonneaux de jauge brute de naviguer dans le bassin Saint-Marc et le canal de la Giudecca. Mais la décision n'était applicable qu'à partir du moment où une route alternative serait trouvée. En 2017, un comité interministériel a proposé de faire passer les paquebots par le canal des pétroliers, mais le projet prévoit des aménagements et fait craindre à certains un impact sur l'équilibre de la lagune. Le ministre des Infrastructures et des Transports de la coalition Ligue 5 étoiles n'a pas donné son feu vert. Dans sa librairie, Cristina Giussani est d'accord, les gros paquebots ne doivent plus passer devant la place Saint-Marc. Néanmoins, elle met en garde.
Il faut savoir en même temps que ces paquebots-là donnent du travail à peu près 3000 personnes. C'est une économie importante parce que les paquebots partent et arrivent à Venise. Donc ce n'est pas le passage et les visiteurs qui visitent la ville. Ce n'est pas ça l'économie. La vraie économie, c'est le ravitaillement des paquebots. Je dis qu'il faut faire attention à ça.
Changement de décor, nous voici dans le bureau d'Herminio Esquena en région parisienne, le président pour la France de l'Association internationale des compagnies de croisière.
Ce qui a pu se passer plus récemment à Venise reste un incident regrettable, mais un incident mécanique rarissime et on essaye aussi de l'instrumentaliser par rapport à quelque chose qui n'est pas destiné bien évidemment à se reproduire.
Est-ce qu'on peut maintenir le statu quo pour les croisières à Venise encore longtemps en termes de trajet de ces croisières ?
D'une manière générale, l'industrie de la croisière continue à porter le projet qui a été initié par le Comitatone. Il nous semble cette solution-là adaptée à tout point de vue et quelque chose de pérenne, de stable. L'industrie de la croisière peut proposer encore des améliorations. Adapter les escales, adapter les jours de rotation, adapter les horaires pour que l'impact de l'industrie de la croisière soit amélioré.
Pour les compagnies de croisière, ce serait un problème de sortir de la lagune, d'aller quelques kilomètres plus loin ?
Aller encore plus loin, alors que les visiteurs sont censés de toute façon aller visiter la ville de Venise, ça amène à s'interroger sur comment on va gérer d'autres flux.
Retour à Venise. Dario Vianello, le président du groupe citoyen 25 avril, a du mal à se laisser convaincre par l'idée de nouveaux aménagements.
Les alternatives ne doivent pas causer davantage de dégâts à Venise et à la lagune, parce que le site UNESCO, c'est Venise et sa lagune. Mais moi, je dis que ce problème, ce sont les armateurs qui l'ont créé. S'ils avaient continué à venir à Venise avec des bateaux plus petits, personne n'aurait rien dit. Pourquoi c'est à l'État de dépenser des milliers des cents et de se charger de trouver une solution ? Selon moi, l'État devrait dire que les bateaux au-dessus de 40 000 tonneaux ne peuvent pas entrer. Point final.
Cet été, le ministre des Infrastructures et des Transports, Danilo Toninelli, a promis un débat public sur deux projets alternatifs. Mais ça, c'était avant la crise gouvernementale.
Tourisme, Venise sous perfusion toxique, un grand reportage de Paul Inglaise, réalisation Pierre Chaffangeon, un magazine à retrouver sur le site de RFI.